Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque aux bases, aux concepts fondamentaux qui régissent les circuits électriques. On a une liste de termes ici, un peu comme un glossaire.
Oui, l'idée, c'est de décrypter un peu tout ça, de voir comment ça fonctionne ensemble.
Oui, c'est vrai.
Exactement, notre mission. Hein. Que des notions comme courant, tension, résistance, puissance, qu'elles deviennent plus claires. Ok, décomposons cela.
On commence souvent par le courant électrique, n'est-ce pas? C'est quoi, au juste, ce flux de charge?
C'est ça, c'est un déplacement de charge électrique et on mesure son intensité en ampères, A. On utilise un ampèremètre pour ça.
Et il y a cette histoire de sens conventionnel aussi. Mais bon, qu'est-ce qui fait bouger ce courant? Et qu'est-ce qui pourrait le ralentir?
Ah, très bonne question. Le courant, il ne bouge pas tout seul. Il faut une poussée. C'est la tension électrique, mesurée en volts, V. Et ce qu'il freine, c'est la résistance électrique, mesurée en ohms, oméga.
Voltmètre pour la tension, ohmmètre pour la résistance, c'est ça?
Tout à fait. Et la relation qui lie les trois, c'est la fameuse loi d'Ohm. U égale R fois I. La tension est égale à la résistance multipliée par le courant.
U égale RI, c'est la base pour les composants comme les résistances, qu'on appelle aussi conducteurs ohmiques.
Exactement. Pour eux, cette relation est directe, linéaire. Si on traçait la courbe caractéristique tension-courant, ce serait une droite.
Donc, si on augmente la résistance pour une même tension, le courant diminue. Logique.
C'est ça.
Et si on met plusieurs résistances dans un circuit, j'imagine qu'on peut les brancher de différentes manières, en série ou en parallèle.
Oui, tout à fait. Si on les met les unes après les autres, en série, leurs valeurs s'additionnent. La résistance équivalente est plus grande.
L'obstacle total augmente.
Voilà. Par contre, si on les branche en parallèle, on crée plusieurs chemins pour le courant. Du coup, c'est plus facile pour lui de passer.
Ah, donc la résistance équivalente, elle est plus faible.
Exactement. Elle est même plus petite que la plus petite des résistances individuelles. C'est un peu contre-intuitif au début, mais ça s'explique bien.
D'accord. Et cette tension, cette poussée, elle vient d'où à l'origine? On parle des générateurs, là.
Précisément. La source d'énergie, c'est souvent un générateur de tension. Il a ce qu'on appelle une force électromotrice, la FEM. C'est sa tension à vide, en quelque sorte, son potentiel maximal.
Mais il y a une différence entre un générateur idéal et un générateur réel, non?
Ah oui, tout à fait. Le générateur idéal, c'est une abstraction. Dans la réalité, un générateur réel a toujours une petite résistance interne, une sorte de frottement interne, si on veut.
Et ça a des conséquences?
Ben oui, ça fait que la tension qu'il délivre réellement baisse un peu quand on lui demande du courant. Et ça limite aussi le courant de court-circuit, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça évite que tout grille instantanément.
D'accord. Et la résistance en général, pas seulement celle du générateur, elle ne fait pas que freiner, j'imagine? Elle doit avoir d'autres effets?
Absolument. C'est là qu'intervient l'effet Joule. Quand le courant traverse une résistance, une partie de l'énergie électrique est transformée en chaleur.
Ça chauffe, quoi.
Voilà. La puissance dissipée par effet Joule, c'est P égale R fois I au carré. C'est incontournable. Même les meilleurs fils conducteurs ont une résistivité non nulle.
Et cette résistivité, elle dépend du matériau et même de la température.
Oui, souvent elle augmente avec la température pour les métaux. C'est pour ça que nos appareils chauffent en fonctionnant. L'énergie vient bien de quelque part, du générateur. Sa puissance fournit, et une partie est perdue en chaleur.
C'est cette énergie qu'on mesure en kilowattheure sur nos factures.
Exactement. Le kilowattheure, c'est une unité d'énergie, pas de puissance.
Bon, on a la source, les obstacles qui chauffent, le flux. Mais comment on s'y prend pour analyser un circuit un peu plus compliqué, avec plusieurs boucles, des intersections?
Ah, là, on a besoin des lois de Kirchhoff. Elles sont super importantes. Il y en a deux.
OK.
La première, c'est la loi des nœuds. Elle dit simplement qu'à une intersection, un nœud, tout le courant qui arrive doit repartir. La somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. C'est la conservation de la charge.
Logique, le courant ne disparaît pas. Et la deuxième?
C'est la loi des mailles. Si on parcourt une boucle fermée dans un circuit, la somme des tensions, des forces électromotrices des générateurs, moins les chutes de tension aux bornes des résistances, est égale à zéro. C'est lié à la conservation de l'énergie.
Avec ces deux lois, on peut donc poser des équations et calculer ce qui se passe partout dans le circuit.
C'est l'idée, oui. Ça permet de tout démêler. Et ça ouvre la porte à des choses un peu plus avancées, comme l'étude des circuits RC, avec résistance et condensateurs.
Ah oui, les condensateurs qui se chargent et se déchargent.
Voilà. Et ça, ça ne se fait pas instantanément. Il y a un temps caractéristique, taux égale R fois C, qui décrit la vitesse de charge ou de décharge. Ça introduit une dynamique temporelle.
Donc pour résumer, on a la loi d'Ohm, U égale RI, pour la relation de base, l'effet Joule, P égale RU carré, qui nous dit que ça chauffe et qu'on perd de l'énergie, et les lois de Kirchhoff, nœud et maille, pour analyser les circuits plus complexes. Avec ça, on a déjà une bonne boîte à outils, non ?
Absolument. Ce sont vraiment les piliers. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. On a parlé de l'effet Joule, cette dissipation d'énergie en chaleur qui est inévitable à cause de la résistance des conducteurs.
Oui, même dans les meilleurs fils.
10 watts compte ou sur des milliers de kilomètres de lignes à haute tension. Comment on lutte contre cette perte d'énergie fondamentale ? C'est un défi constant d'optimisation face aux lois de la physique.